Ésaïe, chapitre 3. Nous avons entamé cette étude la semaine dernière et nous avons indiqué une chose intéressante, c'est qu'en fait, il y a qu'un seul Ésaïe. On l'a démontré en ayant recours à la parole de Jésus et de Jean qui citait des passages dans les deux parties qu'ont certains critique moderne attribue à plusieurs personnes. En fait, il n'y a qu'un seul Ésaïe. Et ce livre Ésaïe, c'est vrai qu'il y a deux grandes parties. Les chapitres 1 à 39 parlent de jugement. Et les chapitres 40 à 66 parlent d'amour, de pardon, de vie éternelle avec Dieu. Nous savons que les divisions en chapitres ne sont pas inspiré par l'Esprit Saint dans le sens où ce seraient des choses qui auraient été présentes dès le texte original. Mais il y a une similarité étonnante avec notre Bible. Il y a 66 chapitres dans le livre d'Ésaïe et il y a 66 livres dans toute la Bible. L'Ancien Testament comporte 39 livres et le Nouveau Testament en comporte 27, ce qui fait un compte de 66. Et c'est vrai que l'Ancien Testament nous apprend l'histoire de l'homme, de sa chute, de son jugement, du jugement du peuple de Dieu. Et nous voyons, à partir du Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, l'espoir qui renaît, l'espoir qui est assuré de pouvoir venir à Dieu et de vivre avec lui pour toujours. Et nous avons donc vu le jugement prophétique sur Israël. On a rappelé que l'histoire du peuple de Dieu avait, après le roi Salomon, pris une tournure un peu triste, dans le sens où, au fait de sa puissance et de sa gloire, après Salomon, le royaume d'Israël et de Juda s'était divisé avec 10 tribus au nord, capitale Samarie, qu'on a continué d'appeler Israël, et 2 tribus au sud, Juda et Benjamin, avec comme capitale Jérusalem. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'en fait, Dieu a envoyé des peuplades, des peuples, des empires ennemis pour exiler d'abord le royaume de Samarie, Israël, en Assyrie, et puis plus tard pour exiler le royaume de Juda, et qui comporte souvent, on dit Juda pour dire Juda et Benjamin, pour les exiler à Babylone. Et c'est dans ce contexte que les prophètes ont parlé. Tout cet exil, cette division du royaume, et cet exil, c'est un tournant clé. Et si vous n'avez pas compris ça, vous pouvez lire autant que vous voulez les prophètes, la Bible et l'Ancien Testament, vous allez rater beaucoup de choses. Je vous invite donc à essayer de voir un peu dans le livre des chroniques, notamment l'histoire de ce royaume qui se divise, de ce royaume du Nord qui est envoyé en exil dès l'an 721 avant Jésus-Christ, et du royaume du Sud, de Juda, qui est envoyé en exil en 586 à Babylone. Et ça, c'est pour résumer, parce que les périodes de l'exil, on l'a vu en étudiant la Bible en 24 heures, il y a plusieurs épisodes dans cet exil, notamment pour l'exil de Juda, de Jérusalem. Ésaïe, on a dit qu'il avait eu un ministère sur de longues années. Il avait prophétisé pendant le règne de quatre rois, le roi Ozias, Jotham, Ahaz et Ézéchias, qui étaient des rois de Juda. Et il prophétisait d'abord, souvent les prophéties dans la Bible ont une réalisation, on pourrait dire immédiate, une réalisation future et une réalisation, un accomplissement à la fin des temps. C'est un peu lorsque l'on regarde des montagnes, il y a souvent des montagnes au premier plan, des montagnes au deuxième plan, et plus loin on peut voir peut-être la neige sur les Alpes. L'équipe a pu voir les montagnes au soleil de notre région et prendre des photos, et on voit très bien ce contraste entre les détails du premier plan, mais il y a toujours deuxième plan, et puis au loin on voit la neige. Et dans les prophéties, c'est la même chose. Il y a souvent une réalisation immédiate. On va le voir avec les enfants qui vont naître pour le prophète, qui vont porter des noms prophétiques. Il va y avoir aussi une prophétie, notamment sur cet exil qui va frapper Jérusalem. Et pour ceux qui lisaient ça, à l'époque, il devait dire « Ésaïe, il est fou ». Et le ministère du prophète, aujourd'hui, beaucoup de gens aiment se déclarer prophète. Le Seigneur m'a dit... En fait, le prophète, c'était une appellation, c'était une vocation plutôt, très, très grave, très sérieuse. Si les prophéties ne se réalisaient pas, on avait le droit, d'après l'Ancien Testament, de mettre à mort le prophète. La vie du prophète, c'était pas une vie de rassemblement à grand renfort de publicité pour dire des choses. C'était une vie de consécration à la vérité de Dieu. On a tendance à penser que la prophétie, c'est toujours parler du futur. Et c'est vrai que pour les prophètes de l'Ancien Testament, notamment, ils ont annoncé, le Seigneur les a utilisés, mais aujourd'hui... Le mot de prophète, je crois qu'il s'applique à ceux qui annoncent les vérités de Dieu avec force et conviction. Ceux qui sont capables de toucher leurs contemporains avec le message de la Bible. Et Jérusalem, Ésaïe annonce qu'elle va avoir de grands problèmes. Nous avons vu, d'abord, ils ont parlé au premier chapitre, ils ont comparé le peuple de Dieu à Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre qui était un symbole fort de jugement de Dieu. Et on a vu que Dieu nous laisse toujours le choix. Il nous dit, si vous raisonnez, si vous venez avec moi, alors même si vos péchés sont rouges comme le sang, ils peuvent devenir blancs comme la neige. Si vous vous décidez à obéir, vous pourrez manger les meilleures productions du pays. Si vous refusez, si vous continuez à être rebelle, alors vous serez dévorés par l'épée. Ça, c'était au chapitre 1, verset 20. Il faut pas être très malin pour savoir qu'il y a visiblement un bon choix et un mauvais choix. On peut se moquer de ces gens qui faisaient le mauvais choix, mais regardons-nous nous-mêmes. Combien de fois, nous aussi, nous sommes devant une décision et nous choisissons de nous rebeller contre Dieu, de faire notre propre volonté parce que nous voyons l'attrait du péché malgré les promesses de Dieu. Il continue en critiquant Jérusalem, en disant que ils se sont adonnés à des tas d'idolâtrie, ils se sont laissés convaincre par l'astrologie, la divination. Le pays est rempli de faux dieux. On se prosterne devant l'ouvrage de ses mains, devant ce que les doigts de l'homme ont fabriqué. Pardon. Et nous vivons dans une époque où Vous êtes, je ne sais pas si vous le savez, mais vous êtes une minorité à avoir pris du temps pour venir écouter la parole de Dieu. Que font nos contemporains aujourd'hui? Ils font la grasse matinée, il y en a qui préparent le tiercé, d'autres qui préparent leur loisirs, d'autres qui... Mais peu s'intéressent à savoir ce que Dieu a pour eux. Ils adorent d'autres dieux. Ils adorent peut-être le dieu des loisirs, le dieu de la sexualité, le dieu de la gloire, le dieu de la richesse. Mais s'ils adoraient le vrai Dieu, ils viendraient participer à l'écoute de sa parole, à la communion fraternelle, ils annonceraient, c'est plus le cas. Dans le chapitre 2, à la fin du chapitre 2, nous avons vu comment Ésaïe annonçait d'une part l'exil qui allait frapper ce peuple, mais aussi il parle pour la fin des temps. Il suffit pour s'en convaincre de voir comment il décrit les gens qui se cachent. Il y a une expression qui revient souvent, c'est « le jour de l'Éternel » ou « en ce jour ». C'est répété et c'est le jour de l'Éternel, c'est dès la croix, mais c'est souvent aussi les derniers temps, la fin des temps. Il donne une description prophétique. Verset 20 du chapitre 2. « En ce jour-là, l'être humain jettera ses faux dieux d'argent et ses faux dieux d'or qu'il s'était fait pour se prosterner devant eux, aux rats et aux chauves-souris. On entrera dans les fentes des rochers, dans le creux des rocs, loin de la terreur de l'Éternel, de l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour épouvanter la terre. » Et ça ressemble étonnamment à un passage de l'Apocalypse du chapitre 6 de l'Apocalypse, où il est dit à partir du verset 14, « Le ciel se retira tel un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. » Car le grand jour de leur colère est venu, et qui pourrait subsister? C'est un paradoxe, cette colère de l'agneau. L'agneau, c'est par excellence l'animal docile, beau, gentil, mignon, tout plein. Mais il est capable d'une grande colère, parce qu'il est l'agneau offert pour le péché du monde. Il est l'agneau immolé, et l'agneau qui va déverser un jour sa colère sur l'humanité rebelle. Il continue en nous disant, verset 22, « Cessez de vous confier en l'être humain dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il ?» En quoi vous confiez-vous pour espérer réaliser vos rêves, vos attentes dans la vie? Est-ce que vous comptez sur Dieu ou est-ce que vous comptez sur vos propres forces, sur vos relations, sur d'autres personnes, sur votre éducation? L'homme, avec toute sa science ou sa pseudo-science, l'homme qui dit que l'homme a évolué à partir de rien, avec beaucoup de temps pour être ce qu'il est aujourd'hui, ces hommes scientifiques ne réalisent même pas qu'ils dépendent de Dieu pour le prochain souffle, la prochaine bouffée d'oxygène, l'air que vous respirez, le fait que vous pouvez continuer à vivre. Je sais que Dina a pris du temps à se réveiller. Sans doute ses parents étaient inquiets. Est-ce que Dieu va vraiment lui donner le souffle? Et est-ce qu'elle va continuer? on se base, on fait confiance à des choses ou à des personnes qui en fait dépendent de Dieu. Lisons à partir du chapitre 3. Oui, page 671 dans la Bible à la colombe, si vous avez besoin d'une Bible, on peut vous en passer une. Oui, voici que le Seigneur, l'Éternel des armées, écarte de Jérusalem et de Juda toute ressource et tout appui, toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Le héros et l'homme de guerre, le juge et le prophète, le devin et l'ancien, le chef de 50 et le notable, le conseiller, l'artisan capable et l'expert en occultisme. Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs et des gamins domineront sur eux. Parmi le peuple, l'un opprimera l'autre et chacun son prochain. Le jeune homme attaquera le vieillard et le vulgaire celui qui est honoré. Alors un homme saisira son frère dans la maison paternelle. Hé, tu as un manteau, sois notre chef. Prends en main cette masse trébuchante. Ce jour-là, il élèvera la voix pour dire « Je ne suis pas infirmier et dans ma maison il n'y a ni pain ni manteau. Ne m'établissez pas chef du peuple. » Ésaïe décrit l'anarchie qui va s'installer. Et souvent, Dieu attire notre attention par la pénurie. Par la pénurie de ressources matérielles, par la pénurie de nourriture, la pénurie de boissons, d'eau. Et c'est vrai que souvent dans les moments de crise, les gens commencent à revenir dans les églises en se disant que peut-être on a intérêt à aller voir Dieu, à mettre un peu de religion dans notre vie. On a rappelé que aux États-Unis, récemment, les églises étaient pleines lorsqu'il y avait des attaques sur Bagdad ou au Koweït. Lorsqu'on est dans la peur, lorsque les ressources viennent à manquer, on revient quelque part à nos sens. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a des fois on se dit, si je continue comme ça, sans doute le Seigneur va m'interpeller, il va peut-être me retirer des choses. Alors c'est une motivation de peur, on sait que ce n'est pas la meilleure motivation, la motivation de l'amour et de la confiance, de la paix, c'est la bonne et la seule vraie motivation. Mais lorsque nous nous montrons rebelles, le Seigneur, des fois, doit intervenir de cette façon. Pénurie de ressources matérielles, de nourriture, d'eau, mais aussi pénurie d'hommes responsables. Où sont les hommes responsables? Où sont les hommes qui suivent Dieu? Nous sommes dans une église, nous avons la joie d'avoir beaucoup de jeunes. Et une majorité de jeunes filles, de jeunes femmes. Nous n'avons rien contre ça, mais nous prions pour qu'il y ait des jeunes hommes qui se lèvent. Pour que des jeunes hommes soient touchés par le message de l'Évangile et se disent « c'est masculin, c'est digne d'un homme que d'aimer le Seigneur, d'avoir un cœur tendre devant le Seigneur. » Il n'y a pas de honte à avoir de la tendresse, un cœur pour le Seigneur. Prions, continuons de prier pour que, non seulement ici, mais en général, il y ait des hommes qui se lèvent. Il retire tous les hommes capables, et c'est vrai qu'ils vont être en guerre, ils vont être des fois sacrifiés. Il y avait la Syrie, c'était un pays très sanguinaire. Le roi, il y avait en particulier, on parle dans les chroniques du roi Tiglath-Pelzer. Je ne me rappelle plus exactement comment on le dit dans cette Bible. Un roi sanguinaire. Il faisait arriver les esclaves qu'il avait conquis en leur mettant des crochets dans le nez. Vous allez à la pêche à la truite, peut-être. Vous savez que ça fait du mal d'avoir un crochet avec un ardillon, une petite pointe qui retient, qu'on peut plus enlever le crochet. Il faisait ça. Et Souvent, il supprimait des populations d'hommes en entier. Il gardait les femmes comme main-d'œuvre ou comme concubines. Mais on voit qu'il décime toute la société, le héros, l'homme de guerre, le juge, le prophète, le devin. Ça ne veut pas dire que Ésaïe soutenait l'existence de devins, mais il décrivait ce qui allait se passer. L'expert en occultisme aussi. Dans notre monde, où sont les hommes d'État? Les politiciens, on en a plein. Des hommes d'État, il n'y en a pas. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui pointent, je ne sais pas, le futur nous lira. Au bout de 100 jours, c'est difficile de juger si quelqu'un est un homme d'État, même s'il s'appelle Obama. Quelle est la différence entre un politicien et un homme d'État? C'est très simple. Et ça, vous pouvez le dire à vos hommes politiques. Le politicien, il regarde la prochaine élection. Le but, c'est d'arriver au pouvoir et d'y rester. L'homme d'État, il va regarder la prochaine génération. Et c'est vrai dans le domaine politique, c'est vrai dans le domaine spirituel, dans le domaine de l'Église. Nous sommes alarmés par le fait qu'il y a moins de 3% des pasteurs en France qui ont moins de 40 ans. On veut qu'une génération de jeunes pasteurs, de personnes qui ont à cœur de servir le Seigneur de toute leur vie, se lève pour les desseins de Dieu. Là, on voit que c'était l'excès inverse. Les anciens sont négligés. Les anciens sont aussi négligés dans notre société. Le politicien va faire du sport pour rester beau, jeune. La vieillesse est quelque chose qui n'est pas à la mode. Et là, on voit combien c'est les jeunes qui n'ont pas l'instruction, la maturité. On voit qu'ils sont sélectionnés simplement parce qu'ils s'habillent bien. Tu as un manteau, alors viens, tu seras notre chef. Tu as un beau costume, tu présentes bien, on juge sur l'extérieur. Ça nous rappelle notre époque. On connaît pas les programmes des hommes politiques, mais il a une bouille qui me plaît. Il est beau, il a l'air énergique, il est bronzé. Et ces gamins qui vont être appelés pour être les responsables, ils disent « je ne suis pas infirmier ». Une autre traduction dit « je ne suis pas capable de guérir, je ne suis pas à même d'amener des solutions ». Ne m'établissez pas chef du peuple. Et Ésaïe continue « oui, Jérusalem trébuche et Juda s'effondre parce que leur langue et leurs œuvres se tournent vers l'Éternel pour braver les regards de sa majesté. Leur audace témoigne contre eux et comme Sodome, ils publient leurs péchés sans dissimuler. Malheur à eux, car ils préparent un malheur. Dites, le juste est en bonne voie, on mangera le fruit de ses œuvres. Malheur au méchant, il est sur la mauvaise voie, car il lui sera fait ce que ses mains auront préparé. Mon peuple a pour oppression des gamins, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, tes dirigeants t'égarent et effacent la voie dans laquelle tu marches. » Jérusalem trébuche, Juda s'effondre, parce que leur langue et leurs œuvres se tournent vers l'Éternel pour braver les regards de sa majesté. Ils vivent dans le péché et ils n'ont pas honte de leur péché. Ils publient leur péché, ils le font connaître sans le dissimuler. Malheur à eux. Ils amènent leur langue et leurs œuvres, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Ça, c'est dans Matthieu 12, 36 qu'il est question de ce qu'on dit et de toutes les paroles vaines qui seront prononcées, nous aurons à répondre. Et ces gens, ils ont même pas honte. Ils sont même pas. Et ça aussi, ça décrit notre société. où les gens se vantent de leurs exploits sexuels impurs, dans les films, dans les livres, au grand jour, il suffit de regarder une émission de grande écoute à la télévision pour voir plein de plaisanteries salaces, quand c'est pas clairement expliqué, c'est suggéré très fortement et on en rajoute une couche et on rit grassement. Et c'est notre société aussi. Malheur aux méchants, il lui sera fait ce que ses mains auront préparé. Des femmes dominent sur lui. Mon peuple, tes dirigeants t'égarent. Alors certains disent oui, la Bible est macho. Je trouve que les femmes dominent sur lui, c'est pas bien. En fait, lorsque les hommes renoncent à leurs responsabilités, c'est souvent le début du déclin des sociétés. Ce n'est pas une question de valeur intrinsèque, c'est une question de rôle, c'est une question de plan de Dieu. Et l'Éternel, ça c'est une façon de parler qui revient souvent dans l'Ancien Testament, c'est Dieu dans un tribunal. Le problème c'est que Dieu est à la fois celui qui accuse, mais celui qui va juger. Il se présente pour plaider, il est debout pour juger les peuples. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez brouté la vigne, la dépouille du pauvre est dans vos maisons. Pourquoi donc foulez-vous mon peuple, écrasez-vous la face des pauvres, oracle du Seigneur, l'Éternel des armées. Là, Dieu reproche aux anciens de son peuple d'asservir, de faire souffrir le peuple, de maltraiter les pauvres, de maltraiter les faibles, d'écraser la face des pauvres. Non seulement les gens sont dans la douleur, mais c'est comme si les méchants mettent leurs pieds dessus pour écraser le visage contre le sol. Et puis il y a un passage qui nous rappelle une prophétie du prophète Amos qui a prophétisé l'enlèvement d'Israël en Assyrie, l'exil. Amos, qui a une période un peu contemporaine, quelques années où, à la suite d'Ésaïe. Ésaïe a plutôt suivi Amos. Dans le prophète Amos, c'est la description des femmes d'Israël qui est retenue. Amos 4, notamment. Écoutez cette parole, vache de Bazan, qui êtes sur la montagne de Samarie, vous qui opprimez les indigents, qui écrasez les pauvres, et qui dites à vos maris, apportez et buvons. Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par sa sainteté, voici les jours viendront pour vous où l'on vous enlèvera avec des crochets. On a parlé tout à l'heure des hameçons de Tiglath-Pelsar. Voici les jours viendront où l'on vous enlèvera avec des crochets et votre progéniture avec des harpons. Vous sortirez par les brèches chacune devant soi et vous vous jetterez dans la forteresse, oracle de l'Éternel. Ici, c'est une description. Alors, on peut dire que le terme vache de Bazan est très, très fort, très, très ordurier. Mais je vous préviens, là, ce qu'on va lire, c'est aussi très fort contre l'immoralité, contre la perversion des femmes. Et si c'est une chose terrible que de voir des hommes se détourner du Seigneur, voir des femmes se détourner du rôle que Dieu leur a donné de s'occuper de la famille, d'élever des enfants, d'être des bonnes épouses, c'est souvent lorsque la femme tombe dans la débauche que la société et que le jugement de Dieu vient. L'Éternel dit, verset 16, « Parce que les filles de Sion, Jérusalem, sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les anneaux de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le crâne des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera toute parure, les anneaux, les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds, les ceintures, les boîtes de senteur et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux, les larges tuniques, les manteaux et les réticules, les miroirs et les étoffes transparentes, les turbans et les mantilles. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu d'une coiffure arrangée, une tonsure. Au lieu d'un manteau de luxe, un sac enroulé. Une marque flétrissante au lieu de beauté. Tous les hommes tomberont par l'épée et tes héros à la guerre. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Dépouillée, elle s'assiera par terre. 7 femmes saisiront ce jour-là un seul homme pour lui dire « Nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de notre manteau. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre honte. » Alors, ces genres de passages, peut-être c'est la première fois que pour certains vous le lisez. Il y a beaucoup de lieux où on dit ça, c'est pas politiquement correct. Mais on s'en moque, que ce soit politiquement ou pas correct, c'est dans la parole de Dieu et tout le conseil doit être annoncé. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des femmes qui se préoccupent de l'aspect extérieur. Des femmes qui sont plus intéressées par leur apparence, leurs bijoux, leurs vêtements, leurs parfums. Et Dieu leur promet la cata. Le parfum, ça va se transformer en odeur de puanteur. Vos belles ceintures, ce sera la corde, vous marcherez comme des esclaves. Au lieu de vos beaux chevets, vous allez être tondus. L'épisode le plus récent, c'est l'épisode peu glorieux des femmes pendant la libération qui étaient tondues, mises à nu, paradées, parce qu'elles avaient eu des relations avec l'ennemi. Et les vainqueurs ne se sont pas glorifiés en faisant ça. Mais c'est ce que Dieu promet à ces femmes qui se moquent de Dieu, qui ne pratiquent pas la charité, qui n'aident pas leurs prochains, et qui se préoccupent tellement de leur beauté, mais qui ne réalisent pas que la vraie beauté, c'est la beauté intérieure. Alors, un passage que vous connaissez peut-être mieux, je l'espère, c'est dans 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, 3. Encore une fois, le fait que Dieu dise qu'il ne faut pas se concentrer uniquement sur la beauté extérieure, ça ne veut pas dire que c'est un péché que de s'habiller correctement, de chercher à être présentable. Mais il y a une fine, il y a une ligne qui est facilement franchie lorsque l'aspect extérieur devient votre seule préoccupation. Pierre disait, verset 3 du chapitre 3 de 1 Pierre, « N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteaux élégants, mais ayez la parure cachée du cœur, la parure personnelle inaltérable d'un esprit doux et tranquille. Voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari, telle Sarah qui obéissait à Abraham et qui l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les descendantes si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. » Très belle description de la beauté intérieure. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est que si vous vous préoccupez de la beauté intérieure, la beauté extérieure va suivre. Alors vous n'aurez peut-être pas les derniers gadgets à la mode, mais vous allez être belle, parce que cette beauté intérieure, elle va sortir et elle va être très attractive. Remerciez Dieu si c'est votre préoccupation, c'est pas l'extérieur. Alors encore une fois, je veux pas que vous sentiez mal si vous avez un collier, si vous avez des boucles d'oreilles, si... Dieu merci, j'ai vu personne enlever les... Est-ce que vous voyez ce que c'est une question de priorité. Il y a même un respect des autres à se présenter correctement, à avoir une hygiène personnelle. Ce n'est pas la peine de dire, bon, ben, si à la fin des temps, on va se sentir mauvais, c'est pas le, je ne mets plus de déodorant, je ne me lave plus la tête, je me laisse aller. Puis il y a cet épisode un peu surprenant des sept femmes qui attaquent un homme. En fait, c'est parce que les hommes auront déserté ou ont été supprimés qu'il y avait une honte associée au fait qu'on n'était pas marié, une honte qui était associée au fait qu'on n'avait pas d'enfant. Et là, les femmes sont prêtes à attraper le pauvre gars qu'elles trouvent encore et lui dit « T'en fais pas, on se souviendra de nos besoins, mais donne-nous enlève notre honte en nous épousant. » Que cette honte-là, elle n'ait pas lieu. Et encore une fois, c'est le signe d'un jugement de Dieu qu'on se retrouve dans cette situation. C'est pas quelque chose pour qui les jeunes hommes doivent prier. Non. C'est un jugement sur la société qui a rejeté Dieu. Mais toujours cet amour de Dieu, ce pardon qu'il est prêt à nous manifester, même au sein du jugement, il donne cette prophétie à Ésaïe et il dit, verset 2 du chapitre 4, « En ce jour-là, le germe de l'Éternel deviendra magnificence et gloire et le fruit du pays deviendra fierté et parure pour les rescapés d'Israël. Il arrivera alors que celui qui restera à Sion et celui qui sera laissé à Jérusalem seront appelés saints. Tous ceux qui seront inscrits pour la vie à Jérusalem, après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et nettoyé Jérusalem du sang qui est au milieu d'elles, par le souffle du droit et par le souffle de la destruction, l'Éternel créera sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses assemblées une nuée et de la fumée pendant le jour et l'éclat d'un feu embrasé pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour neder de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. » L'espoir, la bonne nouvelle, le Messie, le germe dont il est question, le germe de l'Éternel deviendra magnificence et gloire, c'est un terme messianique. D'autres fois, c'est traduit par le rejeton, la semence. C'est un peu comme l'illustration sur un arbre que vous coupez, un olivier que vous coupez. Il va y avoir un rejeton, il va y avoir une branche qui va apparaître sur l'olivier, qui va regermer, qui va ramener l'espoir. Et ce germe, c'est pas une petite branchette qui, le terme qui est utilisé parle d'une, quelque chose qui a une vie abondante. C'est quelque chose qui, c'est parti dans ce qui avait été coupé, le fait que Jésus a été crucifié, qu'il a été rejeté. En ce jour-là, la fin des temps, le germe de l'Éternel deviendra magnificence et gloire pour les rescapés d'Israël. Quand on lit l'Ancien Testament, lorsqu'on lit les prophéties, on peut être très déprimé. Surtout lorsqu'on fait le rapprochement avec notre époque, notre vie personnelle des fois. Et on se dit, bah, c'est pas brillant. Mais Dieu veut nous convaincre de pécher par son Esprit Saint. Tant qu'on croit qu'on peut s'en sortir tout seul, on est en danger de mort éternelle. Parce qu'on ne sent pas le besoin de venir à Dieu. Le péché, c'est en fait qu'on n'est pas en mesure nous-mêmes de vivre la vie pour laquelle nous avons été faits. Cette vie de sainteté, cette vie de consécration, cette vie, il y a cette vieille nature qui nous tire vers le bas, qui fait qu'on fait ce qu'on ne veut pas faire, qu'on ne fait pas ce qu'on voudrait faire. Et ça, c'est la loi qui nous le montre. La dîne de Dina, la loi, le jugement. Et tant qu'on n'a pas reconnu « je suis coupable et je mérite la punition », on ne peut pas recevoir la grâce de Dieu, qui est un cadeau qu'il nous offre. Et là, il voit dans le futur, il voit à Jérusalem, on aura l'occasion tout au long de cette étude de parler de la fin des temps, des prophéties. Il y aura un temple rebâti à Jérusalem, il y aura des gens, il y aura un reste du peuple juif. Certains aiment penser que Dieu a essayé avec le peuple juif et qu'il a remplacé, parce qu'ils l'ont rejeté, qu'il a remplacé le peuple juif par l'Église. Non, le peuple juif, il a reçu des promesses qui se réaliseront. Nous avons eu la chance d'être au bénéfice de cette promesse faite à Abraham, qu'à travers Abraham, toutes les nations de la terre seraient bénies aussi. Nous remercions Dieu pour le peuple juif, pour le fait que Dieu l'a choisi et qu'il a amené le germe de l'Éternel qui devient magnificent ses gloires. Les rescapés d'Israël, il parle aussi des gens qui vont revenir après les exils, mais il parle aussi du peuple juif qui sera converti, tous ceux qui seront appelés saints. Alors ça ne veut pas dire parfait, ça veut simplement dire qu'ils sont mis à part pour Dieu. Tous ceux qui seront inscrits pour la vie à Jérusalem, ça c'est une très belle allusion au livre de vie. Au livre de vie, là où le nom de ceux qui sont pardonnés de leurs péchés par Dieu, par la foi en Jésus-Christ, trouve leur nom inscrit. Et il fait allusion à une nuée de fumée, un éclat de feu pendant la nuit, ce qui nous rappelle la traversée du désert avec Moïse à la tête du peuple juif. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Le Seigneur est un refuge, le Seigneur est une protection. Il y aura à la fin des temps cette période de la grande tribulation, qui sera la colère de Dieu déversée sur un monde qu'il a rejeté. Ma conviction, c'est que l'Église, c'est-à-dire tous ceux qui auront baissé le genou devant Jésus, parmi eux des Juifs messianiques, seront déjà avec Jésus. Ils ne subiront pas cette terrible période de tribulation dont il est question dans Matthieu 24, dans l'Apocalypse. Et il y en aura encore qui passeront par l'épreuve de la grande tribulation et qui viendront au Seigneur. Et pour cela, le fait d'invoquer Jésus comme leur Seigneur, leur Sauveur, il leur servira de refuge, d'asile contre l'orage, contre la pluie de feu. On a dans les descriptions de l'Apocalypse des descriptions très saisissantes de ce que peut être la colère de Dieu. Mais il est question ici, dans ce passage, pour la première fois du Messie, le germe de l'Éternel, qui devient magnificent ses gloires. Et ce que j'aime bien dans cette expression, c'est que ce germe, ça nous donne l'idée de la parole qui est une semence. Parlez de votre espoir en Jésus autour de vous, avec vos parents, vos collègues, vos amis, vos voisins, vos ennemis. Parlez de cet espoir parce que cette petite graine de la parole, Jésus en a parlé, elle peut grandir dans votre vie. Non seulement elle va grandir dans le monde, elle va grandir en France, mais ce qui est merveilleux, c'est quand ce germe, il grandit dans votre cœur, et que vous décroissez et que lui, il croit en vous, il grandit en vous, au point de dominer votre vie, vos décisions, votre façon de voir l'avenir, vos priorités. Et ça devient magnifique, ça devient glorieux. Et ça, c'est le message qu'on peut retirer de ces deux chapitres. Ne vous focalisez pas sur les boucles d'oreilles des femmes de Jérusalem, des vaches de Bazan dont parle le prophète Amos. Concentrez-vous sur le Seigneur et sur l'espoir qu'il donne lorsqu'on vient à lui.